on ne l'aborde pratiquement pas non plus. Voilà, alors ces concepts opératoires pour la stratégie, je crois vous avoir dit que lorsque j'ai réfléchi longtemps maintenant à un cours de stratégie de communication, j'ai fait ce que vous faites dans un mémoire, ce que moi j'ai fait dans une recherche, dans des articles dans l'époque, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme littérature existante, qu'est-ce qu'on fait ? J'avais d'une part tous les auteurs dont on a parlé dans un chapitre précédent, mes grands stratèges de communication, ça vous l'avez en tête. Donc, les gens Dru, essentiellement, Pillon, Séguéla, tous ces gens-là, on les avait vus, ceux de la génération d'avant, les Bustin, Blanchet et compagnie, les Objets de Vie, ok. Mais si ce sont des grands stratèges, ces gens-là, ils n'expliquent pas en détail comment ils s'y sont pris, à l'exception de Jacques Pillon dont nous avons parlé. D'accord ? Les autres, soit ils n'ont pas envie de le dire, soit ils considèrent que ce n'est pas vraiment intéressant par rapport à leurs propos, soit encore, ils préfèrent le garder dans leur petit secret de fabrication, comme les grands chefs ne livrent pas tout leur petit secret pour faire la cuisine qu'ils font. Bon. Alors, partant de là, j'ai cherché. Bien sûr, je suis tombé sur ce que je montrais sur le diaporama, les batteries du BCG, porteurs, et toute la lignée porteurs, ça n'était pas satisfaisant. J'ai cherché dans le Stratégor, le Publicitor, le Communicator, tous ces ouvrages de vulgarisation autour de la publicité, de la stratégie de communication, etc. Il y avait des choses intéressantes, ce n'était pas suffisant. J'ai cherché ce qu'on disait sur le plan de com, j'ai rien trouvé. Bon. Et là, je me suis dit, vous avez la réponse, je me suis dit, il faut aller voir du côté des vrais stratèges de la stratégie. Des vrais spécialistes, pardon. Qu'est-ce que je veux dire ? Des vrais spécialistes de la stratégie. Les vrais spécialistes, où sont-ils ? Nous l'avons dit. J'ai une idée. Alors, avant de commencer, il faut que je vous fasse un petit avertissement. Cette partie du cours est un peu dure. Pas trop pour les concepts, mais est un peu dur psychologiquement. Parce que nous allons parler, nous allons évoquer des concepts, des notions, de gens dont le métier était de faire la guerre. Et pour que ce ne soit pas trop lourd pour vous, on va essayer à chaque fois de faire le pendant entre ce qu'ils ont dit dans leur métier pour faire la guerre et ce que nous pouvons en retenir pour exercer une meilleure action de communication, bien sûr. On n'est pas là pour faire la guerre. On avait déjà un petit peu présenté les choses d'ailleurs. Hein, on a dit parfois on peut faire la guerre à l'ignorance, la guerre à l'égoïsme, ça c'est pour une partie des communications institutionnelles, sociales. Parfois pour faire la guerre à des concurrents, bien sûr, peut-être pas en souhaitant les tuer, quoique. En tout cas, on n'est pas là pour faire une guerre au sens de ces stratèges militaires, on est là pour s'inspirer de leurs concepts, voir s'ils sont toujours utiles aujourd'hui, parce que certains sont très anciens, et comment est-ce qu'on peut les transposer dans meilleure communication. Alors, la première référence, celle qu'on a aujourd'hui nécessairement partout, il y a 15-20 ans, c'était très très peu connu, c'est le fameux Sun Tzu. J'ai donné le nom sous lequel on trouve très facilement, qui est le premier nom, Sun Tzu. C'est à peu près comme quand on cherche Mao Tse-tung. Mais vous savez que les spécialistes sinologues ont estimé que ces traductions de ces noms chinois n'étaient pas adaptées, et Mao Tse-tung, vous savez peut-être, est devenu Mao Zedong. Bon, et Sun Tzu est devenu, vous l'avez sous les yeux, Sun Tzu. Mais j'ai marqué les deux parce qu'il est beaucoup plus connu en France sous le nom Sun Tzu, qui est le nom francisé qui lui a été attribué lors de la première édition de son bouquin. Le titre d'ailleurs est en lui-même choquant. L'art de la guerre. Comme si la guerre faisait partie des arts. La guerre serait un art. Tuer des gens serait un art. Ah bon. Je vous ai dit que cette partie du cours risque d'être un peu pénible pour vous, parce qu'on manipule des concepts qui visent à se débarrasser de l'ennemi. Alors ce Sun Tzu, présentation biographique, mais je mets sa première phrase de façon à ce que déjà j'atténue le sens de ce que j'ai dit. Et avant la biographie, je vous donne peut-être la phrase de Sun Tzu qui résume toute son œuvre. L'art suprême de la guerre, disait-il, c'est de soumettre l'ennemi sans le combattre. Tout doit être fait dans la stratégie, tout doit être organisé pour que l'ennemi n'ait plus d'autre solution que de se rendre, de ne pas se battre. Tellement tout a été bien calculé, un peu comme dans la fin d'une partie d'échecs, vous savez, à 2-3 coups de la fin, est-ce qu'on joue les 2-3 derniers coups de la partie ? Ben non. Vous savez que vous êtes échec et mat, qu'il faudra 2 ou 3 coups à votre adversaire pour parvenir, mais c'est même pas la peine de terminer la partie, ça sert à rien, c'est un peu ça le raisonnement. Si tout est bien organisé, votre adversaire doit être échec et mat, il va même pas combattre parce qu'il sait que de toute façon, c'est terminé pour lui. Autrement dit, ce jeu général, je précise un petit peu, ce Sun Tzu visait par ses considérations stratégiques à ne pas combattre. Donc à réduire autant que possible les fusionnistes. Alors, qui c'était ce Sun Tzu ? Il y a quelques ouvrages sur lui, dont un passionnant, il faudra que j'apporte mon iPad la prochaine fois, qui est sorti sous format interactif, tactile. Un petit bouquin très intéressant sur Sun Tzu, avec interview, etc., que je vous amènerai. On sait très peu de choses de lui, donc je vous donne l'essentiel de sa biographie. C'était un général chinois, d'une des provinces chinoises, la Chine est un pays immense, comme vous le savez sûrement, vivant il y a à peu près 2500 ans, ayant servi sous plusieurs princes, qui a mené, livré plusieurs batailles, en tant que général, bien sûr, et a écrit de sa main, on en est à peu près sûr, il y a eu un moment des doutes, a écrit de sa main un certain nombre de conseils, de consignes sur l'art et la manière de gagner les combats. Ça a été publié après sa mort. Et ça n'a été connu que des Chinois pendant des siècles. La première traduction de Sun Tzu, c'est la fin du 19e siècle, par des sinologues jésuites qui ont vu ces textes, leur intérêt, ont commencé à les traduire de manière parcellaire. Il a fallu attendre les années 1970-80, c'est donc très récent, pour qu'on ait des traductions plus complètes de Sun Tzu, avec des traductions, bien sûr, des commentaires, des analyses, pour mieux comprendre le contexte dans lequel tout ceci se déroule. Ce qui veut dire que quand on va essayer d'interpréter la pensée de ce général, il faut se dire qu'on a non seulement 2500 ans d'écart temporel, c'est énorme, et en plus, un écart culturel. Les Chinois, c'est une civilisation qui est quand même assez différente de notre civilisation occidentale, pour le dire comme ça. On a donc un écart géographique et un écart culturel énorme. Il faut donc être prudent quand on essaie d'adapter, de transposer ces concepts. Mais, quand ils sont aussi clairement exprimés que cela, là, il n'y a pas d'écart temporel. Ce qui a été écrit il y a 2500 ans par Sun Tzu reste encore le cœur de sa doctrine, le cœur de son approche de la stratégie, c'est de ne pas combattre. Donc la stratégie, c'est pour ne pas combattre. Allons-y. Presque à chaque fois, on va, après avoir exposé la doctrine militaire, on va se dire, et nous, en com', on fait quoi ? Donc, réduire, soumettre l'ennemi sans combattre, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en communication ? Ça veut dire qu'il est un moment où l'ennemi, alors on ne va pas dire le concurrent, bien sûr, on va dire l'ennemi, on va dire le concurrent, l'adversaire, partenaire, bon, ne pourra plus rien faire d'autre que de constater que vous avez été meilleur que lui. Vous avez quelques exemples parmi ceux qu'on a donnés, parce que j'en ai déjà donné plusieurs. Quand je vous ai parlé de Pillon la dernière fois, la lettre à tous les Français, hein, voilà. Rappelez-vous, les consultants de Chirac achètent les panneaux publicitaires français parce qu'ils attendent que Mitterrand, les consultants de Mitterrand, les conseillers, refassent le coup de 1981. Bon, et là, qu'est-ce qui se passe ? Coup de théâtre, la fameuse lettre aux Français, achat de pub ne servant plus à rien. De ce point de vue, le RPR, c'était le RPR, c'était pas le MP, s'est trouvé, non pas sans pouvoir combattre, bien sûr que Chirac s'est présenté, il apportirait sa candidature, faut quand même, bien sûr que non, mais du point de vue strict de la communication, les jeux étaient faits, les jeux étaient terminés. Il n'y a plus moyen de rattraper tout. Voilà ce qu'on peut dire pour un des exemples que j'avais donné, mais il y en aurait des tas d'autres. dans lesquels, quand une communication est parfaitement bien établie, contre un concurrent, contre un adversaire, on peut pratiquement obtenir ce que l'on veut sans combattre. En communication institutionnelle, pour la santé par exemple, c'est bien ce qu'on cherche à faire. Quand on cherche à convaincre les gens qu'il faut qu'ils prennent un certain nombre de précautions de santé, on essaye de les convaincre sans se battre contre eux. Donc ce principe, on le retrouve pratiquement toujours en communication. J'ai dit pratiquement. Je continue à donner les consignes de Sun Tzu, traduites bien sûr. J'aurai une diapo après pour vous montrer comment Sun Tzu s'exprimait. Là, c'est traduit, adapté en langage contemporain, pour que d'une phrase, on puisse tout de suite comprendre. Prendre tout intact est l'objectif ultime. Parce que ça pose la question de la finalité de la guerre. Vous faites la guerre pourquoi ? Surtout à l'époque entre les provinces chinoises. En Europe, on a connu les féodalités avec les aristocrates qui se battaient d'une province à l'autre. On a bien connu ça, nous aussi, bien sûr. Pourquoi vous faites la guerre ? Généralement, pour mettre main basse, pour récupérer ce qui est objet de convoitise. À l'époque, ce n'était pas trop des usines, c'était essentiellement des ressources naturelles. Et ce qui allait avec, ils accompagnaient, bien sûr, les villes et le circuit économique présent dans les villes. Donc, si vous faisiez la guerre et que vous démolissiez tout, que vous brûliez tout, que l'ennemi pratiquait ce qu'on appelle la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il détruisait tout avant que vous veniez, vous étiez vainqueur, certes, mais d'un pays complètement dévasté dont vous ne tiriez rien du tout. Vous voyez ? Donc, dès le départ, la pensée de Sun Tzu, c'est de se dire... On va éviter la terre brûlée. On va essayer de ne pas tout raser. On va tout prendre dans le meilleur état possible. Et la meilleure guerre, c'est celle dans laquelle l'ennemi se rend et vous récupérez tout ce matériel. Vous savez que souvent, quand une armée est conduite à se rendre, ce qu'on lui donne comme ordre, c'est de saboter tout. C'est bien la preuve que Sun Tzu avait raison, puisque si l'ennemi va tout saboter, bon, ben forcément, vous n'allez rien récupérer. Je crois vous avoir dit que j'ai étudié pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale, que j'ai beaucoup d'admiration pour Churchill. Une des raisons pour lesquelles Churchill est modérément aimé en France, je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a à Paris une station de métro de Churchill ? Vous pouvez chercher, hein. Et peut-être que vous ne savez pas pourquoi, tout simplement parce que lorsque 1940, la France a capitulé dans l'Allemagne, la flotte française était une des grandes flottes au monde. Il y avait la flotte anglaise, la flotte française. Il y avait beaucoup de bateaux de guerre. Et là, qu'est-ce qu'aurait dû ordonner les nageurs français quand on a capitulé ? De s'avancer toute la flotte française pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'Allemagne. Parce que si on ajoutait la flotte allemande, plus la flotte française, c'était plus gros que la flotte anglaise. D'accord ? Et là, ça ne vous revient pas, vous connaissez l'histoire ? Qu'est-ce qu'a ordonné Churchill ? Il fait qu'il était moyennement aimé en France quand même. De couler la flotte anglaise. La flotte française, pardon. C'est passé en Algérie. Il avait été stationné à 27 km. 2500 morts français. Et tous les bateaux coulaient. Pas la flotte anglaise. Qu'étaient nos alliés d'avant ? Et qui, du fait qu'on avait capitulé, et qu'en ayant capitulé, on avait livré cette flotte à Hitler, or, la TDB devait couler. Et de ce point de vue, Hitler, ben, il a tout raté. C'est autre chose de tout rater, bien sûr. Hein. Bon, c'est pas ça. Mais de ce strict, j'ai dit de ce point de vue. De ce point de vue, il a compris la flotte française, comme il aurait pu la convoiter, c'est-à-dire la voir en état.
Et ça pouvait influer fortement sur le cours de la guerre.
Bon, donc prendre tout intact est l'objectif ultime. Empêcher les sabotages, empêcher les sabordages pour les bateaux, et bien sûr ne pas tout détruire soi-même quand on entre dans le territoire en question. Autre considération de Sun Tzu, jamais une guerre prolongée ne profite à aucun pays. Ça c'est un principe de base. On va reprendre pour la communication, parce que celui-là est très facile. La rapidité.
la vitesse allait toujours très vite. Très, très vite. C'était le 11 novembre hier. On entre dans la commémoration du centenaire de la guerre de 14-18. Voilà, on va dire, la guerre qui a pris tout le contraire de Sun Tzu. En particulier, une guerre prolongée. Quand on a vu à quoi ont servi les tranchées, à faire des morts allemands et des morts français, des morts anglais, des morts belges, enfin, etc., des morts américains quand ils sont venus, ça veut dire quoi? Et s'il y a eu des gains de territoire? Ben non. Puisqu'ils se bombardaient les uns les autres pour gagner une tranchée, qui était reprise par l'ennemi, qui était ensuite à nouveau. Voilà, c'était ça. Les pauvres types qu'on a appelés les poilus, ben, ils se sont amusés avec les guillemets que vous voulez, dans la boue, dans tout ce qu'on peut imaginer avec les obus qui leur tombaient dessus. Donc, jamais une guerre prolongée ne profite à aucun pays. Les guerres doivent être très rapidement menées. Si une guerre dure longtemps, ça ne va pas. Un des exemples de guerre récente menée en 6 jours.
Israël.
Voilà. Israël contre tous les pays arabes, emmenés par l'Égypte dans les années 70. Tous les pays arabes autour, Jordanie, Égypte, etc. En 6 jours, l'armée israélienne a défait toutes les armées qui étaient autour. Toutes. Plus d'avions, plus de chars, plus rien. Du tout. Donc voilà une guerre qui s'est appelée la guerre éclair, qui a été menée en 5 jours. Il faut toujours des temps très très brefs. Si on s'éternise, déjà on prend des risques, etc. Alors la rapidité en com. Bah, vous en avez eu un petit exemple. Bon, c'est pas pour tout ramener forcément à cette visite, mais si vous avez bien calculé votre coût, il faut que la logistique suive, et si vous avez des documents imprimés, il faut que ça soit imprimé au bon moment. Donc il faut aller très vite pour ça. Il faut que tout soit coordonné, que tout aille très très vite, de façon à ce que vous ne prêtiez pas le flanc. Hein, prêter le flanc, c'est une expression militaire, prêter le flanc à des coups de l'ennemi. Je crois que ce principe-là, sur la vitesse, est très 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 utile en communication, 2500 ans après, sans aucun problème. La technique du coup de grâce, c'est le corollaire du principe qui est au-dessus. L'art suprême, c'est soumettre sans combattre. On va dire que le coup de grâce, c'est que l'ennemi, il est rendu vulnérable. Et s'il est vulnérable, c'est le coup de grâce. Alors, comme vous le voyez, Sun Tzu ne s'embarrasse pas de considérations morales. Quand on fait la guerre, la morale... Bon, même si depuis sa lointaine époque où tous les coups étaient permis, on a essayé de moraliser la guerre. Il y a des conventions internationales. C'est ce qui, par exemple, a fait que pour la Syrie, elle a franchi la ligne quand elle a utilisé, si elle l'a fait, mais c'est très probable, des gaz de combat. Les gaz de combat, alors c'est vrai que d'un certain point, on peut dire que c'est un peu gênant parce que les gaz de combat sont interdits. On n'a pas le droit de tuer les gens avec du gaz. On a le droit de les tuer n'importe comment, avec des bombes, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais pas avec les gaz.
Surtout, c'est les Anglais qui s'en sont servis.
Les gaz de combat?
Ouais. Si, j'ai vérifié. Je ne sais plus dans lequel guerre, mais...
Bah, les premiers
oui,
gaz de
combat... Oui, aussi.
Oui, mais c'est en 14-18 qu'on a essayé les gaz de combat, c'est les Allemands.
Oui, mais là, depuis, on a des conventions, soi-disant, ne pas utiliser ces gaz, sauf que là, on ne sait même pas si ils ont été utilisés.
Ah, bah ça, non, j'ai été prudent, hein, j'ai dit pour la Syrie, hein, j'ai été prudent. Il y a des témoignages, bon, très bien. Mais ceux qui les ont utilisés les premiers, qu'ils ont inventés, bon, c'est vrai que nous sommes amis avec l'Allemagne maintenant, donc la question se posera de la même façon, mais c'est eux. D'ailleurs, c'est des gaz qui sont toujours utilisés. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle le sarin. C'est un gaz qui a été mis au point dans les années 1914-16. C'était en 16 qu'il a été utilisé vraiment pour la première fois. Et donc ce gaz sarin, c'est toujours le même aujourd'hui. On en a d'autres. Hein. On a raffiné avec tous les guillemets, si vous voulez. Mais il se trouve que les conventions internationales, la convention de Genève en particulier, interdit l'emploi des gaz de combat, le sarin comme tous les autres, de façon... Enfin, parce qu'on considère que... En fait, si vous voulez, l'idée, c'est la suivante. C'est que normalement, les militaires font la guerre à des militaires. Vous voyez la raison? D'où le fait que les armées, il y a toujours des uniformes qui vous différencient. Et en principe, vous ne vous trompez pas. OK? Et si on interdit les gaz, c'est parce que les gaz, justement, ils ne font pas la différence entre les civils et les militaires, par exemple. Ou entre les militaires amis et ennemis. Alliés et autres. C'est une des raisons pour lesquelles on a institué cette convention sur le non-emploi des gaz de combat. Bon, enfin ça, c'est un autre débat qui n'a pas de répondant en communication. Alors, le coup de grâce en communication, puisque notre but, c'est ça, hein. Le coup de grâce en communication, c'est quoi? Vous voyez des exemples? Si vous avez fait une très belle campagne de com, le coup de grâce, c'est que la personne fasse clic, par exemple, sur votre site, pour obtenir des informations supplémentaires sur vos produits, voire fasse clic pour commander. Le coup de grâce, c'est le clic de souris. Vous avez tellement bien préparé toute l'opération, par quoi? Par des actions psychologiques, alors immorales, peut-être qu'aujourd'hui ça ne dirait pas bien, mais psychologiques, vous avez mis l'adversaire, qui parfois peut être pas trop un adversaire, un partenaire, on peut aller jusqu'au client pour ça. Et si jamais vous avez mis le client dans une disposition d'esprit à reconnaître votre supériorité, regardez, je reprends maintenant pour le client. Je n'ai pas voulu le faire tout à l'heure parce que je vous laissais le plaisir de le dire vous-même. Non pas que le client soit l'ennemi, bien sûr, mais c'est bien le client dont il faut vaincre quoi? La résistance. Non? C'est bien le client ou le prospect dont il faut vaincre la résistance. Et pour vaincre la résistance, est-ce que ce n'est pas l'art suprême de la conviction pour le prospect? C'est de le soumettre sans qu'il combatte, c'est-à-dire sans que son sens critique se relève pour dire bah non, j'en veux pas. Ça vous est pas arrivé, vous-même, en situation de consommateur, d'hésiter en disant oh, est-ce que je fais bien ou pas bien d'acheter ça? Hein? Bon, vous êtes bien placé dans cette situation de plus trop combattre, de plutôt combattre bah, tout ce qui vous paraissait inapproprié dans l'acte d'achat. Donc ça se retrouve. Vous voyez comment on transpose facilement, à condition de, bien sûr, surtout pas prendre l'ennemi, déjà pour l'adversaire, le concurrent n'est pas bien adapté, mais il est encore beaucoup moins pour le client. Bon, donc, viser le coup de grâce, infliger, le mot infliger est un peu fort, hein, mais viser le coup de grâce pour le client, le prospect, qui est déjà rendu vulnérable par toutes sortes d'actions psychologiques, ben c'est exactement ça, non? Ça donne aussi la relation entre communication et fonction commerciale. Dont on ne parle pas trop ici parce qu'on est dans un cursus de communication. Et c'est normal, vous n'êtes pas dans un cursus business, commercial. OK. Mais il n'empêche qu'il y a bien continuité, complémentarité et parfois action conjointe entre les services commerciaux, marketing et le service communication. Et la communication, là, ça resitue peut-être son rôle. La communication, elle va s'occuper de ça, elle. Hein? C'est ça qu'elle va faire. Je laisse un peu de côté l'aspect moral. Pas dans la communication humanitaire. Quand on est dans la communication humanitaire, le côté moral, ben, prépondérant, non? Quand vous cotisez, quand vous voulez pousser les gens à cotiser pour une association humanitaire, vous allez aussi avoir des actions morales vis-à-vis d'eux. Les confronter à leur sens moral. Et les confronter à leur sens moral, ça va être, ben, évidemment, de faire en sorte que leur avarice, pour le dire comme ça, ne soit pas trop en train de combattre leur sens moral. Vous allez très parfaitement l'articuler. Et pour gagner, ben pour gagner, le tout intact et l'objectif ultime, ben c'est que les gens vous donnent le maximum. Et aussi, il faudra que vous alliez très très vite. Ne serait-ce que pour aller plus vite que les autres. Vous voyez ? On peut très bien réinterpréter Sun Tzu en disant finalement, malgré la distance sur laquelle j'insiste, la distance historique, temporelle, la distance géographique, culturelle, bon, malgré ces énormes distances, ce sont des conseils de bon sens. C'est peut-être aussi pour ça que Sun Tzu a cette valeur universelle parmi les stratèges. En com, mais parmi d'autres aussi. Alors pour la petite histoire, lorsque je préparais, je crois que c'était la première édition ou un article que j'avais fait avant sur les professions de la communication, ça fait donc un moment, j'étais voir des tas de grands IRCOM, bien sûr, pour discuter avec eux, voir comment les choses se passaient, comme vous pouvez faire le même pour un mémoire, d'ailleurs c'est quand même étonnant, hein, on va voir des gens qui sont partie prenante, qui sont les acteurs particulièrement importants, les interviews, etc. Bon. Eh bien, dans les bureaux de ces IRCOM, je voyais, négligemment placé sur une table conférence, ou parfois dans le rayonnage de la bibliothèque était derrière, à certains niveaux, les gens ont une bibliothèque. Hein. Il y a toujours quelques bouquins. D'accord ? C'est ce qui situe aussi les niveaux relatifs. Bon. Je voyais traîner ou trôner l'ouvrage, le Sunzu, petite couverture jaune, édition de poche, hein, ça se reconnaissait au premier coup d'œil. Donc ces gens-là montraient qu'ils connaissaient Sunzu et qu'ils avaient lu Sunzu et que ça pouvait inspirer leurs actions. On le trouve toujours hein, dans pas mal de bureaux, on continue de trouver Sunzu, en particulier sous cette couverture rouge. Jaune d'abord, mais maintenant c'est passé rouge. Enfin, une des éditions. Alors je continue dans les apports de Sunzu. Un autre apport très important, c'est de clarifier la position de la stratégie par rapport à la tactique, par rapport à la politique. Pour Sun Tzu, ce qui compte, c'est la stratégie. Et la stratégie doit être élaborée par des spécialistes, c'est-à-dire par des militaires, par des généraux. Sun Tzu était, bien sûr, en tant que général, mais général en chef, toujours sous la dépendance d'un prince. Roi, si vous voulez. Et c'est posé dès le départ une question qu'on retrouve nous. L'état des relations entre le prince et le général. On le traduit pour nous. L'état des relations entre, alors à la place du prince, on dit le directeur général, le PDG, l'élu. Ce sont des princes. C'est bien la même chose. Certes, ils ne sont pas nommés de la même façon, on est d'accord. On a remarqué que le monde a un petit peu changé depuis. Mais c'est bien eux qui ont le pouvoir. Que ce pouvoir soit un pouvoir de droit divin, je ne sais quoi, par transmission héréditaire, que ce soit un pouvoir démocratique, temporaire, limité, etc., c'est bien le pouvoir, de toute façon. Le maire a du pouvoir. Le président de la République aussi. Bon. Donc entre le prince, c'est-à-dire seul le détenteur du pouvoir, et puis le IRCOM. IRCOM étant le général. Et de ce point de vue, le DIRCOM, c'est le général, c'est celui qui doit avoir le primat à la stratégie. J'entends bien, attention, hein, on parle cet après-midi de stratégie de communication. Ok ? Je ne parle pas de stratégie générale. Rappelez-vous mon schéma où il y avait les trois dimensions de la stratégie de com, mais il y avait une quatrième dimension, c'était la stratégie générale d'entreprise. Et ça, c'est pas le communicant qui va déterminer la stratégie générale de la boîte. On est bien d'accord. Mais pour ce qui concerne la stratégie de com, en principe, c'est le DIRCOM qui doit avoir le primat. Et il retrouve Sun Tzu. C'est pas quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la communication qui saura construire, concevoir une bonne stratégie de com. Vous voyez à quel niveau je place la com. Ça rejaillit directement sur vos stages, ça. Dans vos stages, quand je vous ai dit qu'il fallait qu'il y ait quelques petites orientations stratégiques et que je souhaitais que ça apparaisse dans l'intitulé des missions, voilà. Ce n'est pas pour faire dès votre premier stage, enfin pour certains premiers, mais dès votre stage de Bac plus 4, ce n'est pas pour faire la grande stratégie. Hein. Mais par exemple, c'est une phrase du genre participer à. Ça me suffit. Parce que participer à la réflexion stratégique, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on vous prend partie prenante de cette réflexion. Vous n'êtes pas seulement un exécutant. Vous êtes dans la conception stratégique, et ça, c'est essentiel pour la suite. Donc, primat absolu à la stratégie, c'est ce qui prime tout, c'est ce qui doit dicter l'ensemble, c'est aussi ce sur quoi on doit consacrer, bien sûr, l'essentiel des ressources, puisque le propre de la stratégie, ensuite, c'est de les dispatcher, pour le dire comme ça. Dès cette période lointaine, j'ai annoncé, Sun Tzu faisait la distinction entre stratégie et tactique. Vous savez bien, nous l'avons dit, donc on ne va pas s'y appesantir. C'est pas du tout pour dire que la tactique ne soit pas importante, parce que s'il n'y a pas une bonne tactique, vous allez vous planter, vous allez rater votre opération. Mais il y a la grande stratégie faite par le général en chef, et ça descend hiérarchiquement, jusqu'à ce qui est, au fond, une sorte de stratégie locale. Aujourd'hui, on préfère dire une stratégie locale par rapport à une stratégie globale. Autrefois, ils avaient plutôt une stratégie, tout court, et une tactique. On a dit que le mot tactique, tacticien, était connoté un peu péjorativement, d'où le fait que les gens qui font de la tactique préfèrent dire qu'ils font de la stratégie locale. Peu importe. Tout ça, c'est du vocabulaire. Ce qui compte, c'est de bien montrer qu'il y a des différents niveaux et qu'il ne faut jamais perdre de vue et le global d'un côté et le local de l'autre. On a besoin des deux. Si la stratégie locale, donc la tactique, est mauvaise, la plus belle stratégie générale va se planter. Parce qu'on n'aura pas pensé au plus petit échelon. Et réciproquement, bien sûr. Sun Tzu insiste beaucoup sur le renseignement.
Disons le mot le plus connu, l'espionnage. L'espionnage, vous savez que les services d'espionnage ne s'appellent jamais espionnage. Ils s'appellent service d'information, service de renseignement. Et les Anglais ou les Américains appellent ça l'intelligence. Ce qui a donné en France des formations dont je me suis un peu moqué. J'ai tourné ça un peu en dérision, y compris à Saint-Étienne. C'est comme ça que je me fais plein d'amis. C'est quand je fais observer aux gens que ce qu'ils racontent, c'est pas très très sérieux. Monter un diplôme d'intelligence économique. Ça fait bien, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, l'intelligence économique. Avant, on appelait ça la veille technologique. Hein? Bon. C'est du renseignement, c'est l'espionnage, c'est tout. Et quand je faisais observer que pour faire ça, bah, il fallait peut-être qu'on recrute des bons spécialistes, les gens qui faisaient ça pensaient que c'était seul les économistes qui allaient le faire. Rigolade, l'intelligence économique, ça veut dire utiliser tous les moyens de renseignement, d'espionnage, pour obtenir des informations permettant d'avoir un avantage sur ses adversaires. Donc c'est bien une guerre économique. Alors, Sun Tzu insiste fort là-dessus en disant qu'il faut absolument avoir toutes les informations sur l'ennemi, qu'on ne peut pas, ça c'est fondamental, hein, qu'on ne peut pas faire une bonne stratégie si on n'est pas bien informé sur les moyens de l'ennemi, les intentions de l'ennemi, les buts de guerre de l'ennemi, etc. Il faut tout connaître de l'ennemi. Il faut s'immerger chez lui pour tout connaître. Alors, pour nous en communication, d'une part, il faut savoir ce que veulent faire nos adversaires et être très bien renseigné. On a une forme très adoucie de ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait les études communes entre différentes entreprises pour espionner gentiment, comme on espionne ses amis, hein? Du benchmarking. Bah ouais, on fait du benchmarking. C'est une forme très adoucie. Bon, donc on collecte le maximum d'informations par tous les moyens possibles sur son ou ses adversaires. Et ça n'est que lorsqu'on est en mesure d'avoir le maximum d'informations qu'on pourra commencer à construire une stratégie qui va différencier de celle de l'adversaire. Premier point. Deuxième point, et là il le dit carrément, déstabilisation. Il va très loin. Hein? Parce que quand on fait de l'espionnage, du renseignement, on est passif. On collecte des infos, on essaye de les recouper. On essaye de comprendre comment fonctionne l'ennemi ou l'adversaire, ou le concurrent, c'est passif encore. Sun Tzu, il ne s'arrête pas là. Sun Tzu, il va jusqu'à des pratiques qui ne seraient évidemment pas trop bien tolérées entre entreprises. Alors, je pense, hein. Sabotage, démoralisation, fausses nouvelles, rumeurs, tout. Tout est permis. Un autre auteur très important dont je ne parlerai pas, enfin j'ai pas fait une diapo sur lui, d'ailleurs je le regrette, il ne faut pas pratiquement que je le fasse, c'est Machiavel. Il s'est posé ces questions-là quelques siècles plus tard, hein, 1500 ans après. 1500 moins 2500, ça fait 500, c'est pas ça. Non, 2000 ans après. Oh, je ne suis pas trompé, 2500 moins 2000 ans après. Mais qui avait 2000 ans après lui et 500 ans avant nous, j'en dis, hein, s'est posé la question morale de la fin et des moyens. La fin justifie-t-elle les moyens? La réponse que pose Machiavel dans un ouvrage qui s'appelle Le Prince, où on se retrouve toujours avec un prince et un conseiller, c'est oui, la fin justifie les moyens. Et dans un certain nombre de circonstances, eh bien voilà. Ça repose la question des renseignements de la NSA et compagnie. Hein, ça peut vous faire sourire par rapport à ça. Donc tout ce qui est déstabilisation est permis. Est-ce qu'en communication, ça existe?
Est-ce que la déstabilisation est autorisée en communication ? Dans quelles circonstances ? Ouais. Oui, on peut le prendre.
Il a utilisé sa adversaire pour prendre l'opération.
Oui. Mais le bing, c'est pas forcément dirigé contre l'autre, c'est peut-être dirigé pour se défendre soi. C'est pourquoi je dis oui, bon. Mais il y a un exemple flagrant dans lequel c'est théoriquement permis, mais en France, on ne l'applique pas. Il y a une loi qui est passée en France pour autoriser la publicité comparative. Nous étions un des derniers pays à la refuser. Il y a une quinzaine d'années, on a passé une loi autorisant la publicité comparative. Il se trouve que cette loi n'est pas... Enfin, la loi, elle est promulguée, mais les professionnels n'en profitent pas. Vous envoyez la publicité comparative en France pour dire que telle voiture est bien meilleure que telle autre, parce que, par exemple, moi, je verrais bien une pub pour dire bah, nous, chez Renault, nos voitures, il y a beaucoup moins de morts que dans les Peugeot. Vous voyez le truc ? Vous imaginez ? C'est pas possible. Or, légalement, ça l'est. Légalement, ça l'est. Donc, vous voyez que on a porté en communication des limites et que cette publicité comparative dans d'autres pays, c'est beaucoup plus agressif que chez nous. Hein. Mais nous, ça reste très très soft. On ne s'attaque pas frontalement aux concurrents. Il y a quelques entreprises qui l'ont fait en informatique, par exemple. Hein. Il y a eu des tentatives de boîtes, en particulier des assembleurs d'ordinateurs, pour dire que c'était aussi puissant qu'eux. Alors on rayait le nom IBM, mais on arrivait à voir que c'était IBM. C'était aussi beau qu'on rayait, c'était aussi tout ce qu'ils voulaient, mais c'était beaucoup moins cher que. On ne pouvait pas lire IBM, mais on arrivait à comprendre que c'était un signe d'entreprise en trois lettres qui commençait sûrement par un I et qui finissait par un N. C'est
pour te simplifier quand même.
Ça s'est fait. Mais dans un domaine très particulier, des ordinateurs, et pendant une courte période où s'est attaqué IBM, plutôt IBM, de toute façon, était fort dans les ordinateurs. Aujourd'hui, ils ont totalement abandonné ce marché. Voilà. Donc, on ne va pas jusqu'à... disons qu'on ne va pas trop loin, même en politique. Regardez la publicité politique américaine par rapport à la nôtre. Les campagnes américaines sont d'une violence inouïe. Puisqu'on prend les arguments de l'autre, on les détourne, on les manipule, on va jusqu'à dire le contraire de ce qui a été présenté, pour convaincre les électeurs qu'il ne faut surtout pas aller voter pour eux. Nous, ça ne se fait jamais. Même s'il y a de la violence en politique, bien sûr, hein, mais on ne va pas jusqu'à retourner complètement les arguments de l'adversaire. On n'ose pas, peut-être que ça viendra d'ailleurs, mais pas pour le moment. Donc vous sentez que là, on a une frontière, le renseignement, oui. On fait tout ce que Sun Tzu nous indique. La déstabilisation, on va dire à dosage très très modéré, voire homéopathique. C'est un peu évolué, c'est très culturel cette question-là. Peut-être un des conseils les plus forts de Sun Tzu,
un des plus signifiants, la surprise. Attaquez toujours là où on ne vous attend pas. Ça, c'est sûrement un des plus grands conseils de Sun Tzu, sachant qu'il faut les prendre en bloc, bien sûr, mais l'effet de surprise, alors ça, c'est radical. Pour gagner une bataille, c'est pratiquement toujours la surprise. D'où, et ça s'apprend dans les écoles militaires, toute une série de ruses pour faire croire que vous allez attaquer à tel endroit, que l'ennemi masse toutes ses troupes à cet endroit-là, et que bien sûr, vous attaquez ailleurs. De préférence, ne vous attend pas du tout pour le prendre à revers, etc. Ça, cet effet de surprise, c'est un principe que Sun Tzu a découvert, isolé, enfin c'est comme ça qu'il a gagné les batailles, et en communication, pour lui, c'est un régal, parce que là, on n'a pas à prendre des gants, des précautions oratoires comme pour les autres. Le renseignement, oui, mais certainement pas la déstabilisation, la manipulation, on n'en sait pas. Pour la surprise, il n'y a aucun problème. Soyez dans la surprise. Mais il faut s'en donner les moyens, parce que pour être dans la surprise, ça suppose que ça soit vraiment une surprise pour l'ennemi qui ne vous attend pas. Qu'il n'y ait pas de secret éventé chez vous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, par l'enseignement, qu'on sache ce que je voudrais faire. Ça peut être une vraie surprise. Et puis aussi, on va dire peut-être que
vos propres troupes soient au courant du minimum de façon à ce que ça ne se dise pas. Donc, soit au courant du minimum. En période de guerre, c'est passible du conseil de guerre. Et donc, de la peine. Ça peut être capital si jamais vous vous amusez à dire bah oui, on va attaquer à tel endroit, on raconte ça, secret absolu. Ça explique aussi que certaines entreprises fassent du secret absolu une de leurs composantes essentielles stratégiques. Le secret, le blackout, on ne dit rien. Ou si on dit des choses, voilà, bien sûr. Là, je crois que les exemples, ils sont flagrants, des faits de surprise. Si je reviens à Pillan tout à l'heure et à la fameuse lettre, on l'a expliqué par réduire l'ennemi sans combattre, mais il y avait surtout et avant tout l'effet de surprise. Attaquer là où on ne vous attend pas. Et ça, en com, ça a donné, c'est à la racine d'une approche qu'on va voir, je crois que ce sera la prochaine fois, carrément, enfin, bientôt, qui s'appellera la disruption. La disruption, c'est fortement basé sur l'effet de surprise, vous attaquez là où on ne vous attend absolument pas. On ne sait pas que vous allez arriver là, et c'est pourtant là que vous allez arriver. Le plus grand effet de surprise militaire, je crois qu'on l'a déjà dit à deux reprises, peut-être trois, c'est le débarquement du 6 juin 1944. Je crois que dans l'histoire militaire, il y a eu avant, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'effet de surprise? Allez.
Hiroshima.
Ouais.
C'était pas prévu.
Ouais. Pour l'arbre. Avant Hiroshima, pour l'arbre.
Ouais.
Bien sûr. Ouais. Et bien avant, bien avant, bien avant. Du temps des Grecs. Ouais. Cheval de Troie. Magnifique ruse. Effet de surprise garanti. Vous rappelez l'histoire, hein? Bon. Donc voilà. Au fil, vous voyez, au fil des âges, on parle de juin 44, on parle de la Seconde Guerre mondiale beaucoup parce que c'est le plus proche pour nous, mais on n'a pas attendu les plages du débarquement pour avoir des effets de surprise majeurs comme le fameux cheval de Troie, où les pauvres Troyens croyaient que leurs assaillants étaient partis, avaient laissé ce magnifique trophée du cheval à l'extérieur des remparts, l'ont fait rentrer dans la ville pour faire la fête, et voilà, vous connaissez la suite, bien sûr. Bon, donc, effet de surprise. Ça, c'est peut-être là où vous, en tant que... je répète que ce cours, hein, je vous appelle dire comme tout le temps, je sais bien que la vie professionnelle ne commence pas comme ça. Hein. Mais là, on est au cœur de la stratégie. Celui ou celle qui fait la stratégie, c'est bien sûr le dire comme ou le responsable de comme. C'est pourquoi je parle tout le temps du dire comme, évidemment. Donc, n'oubliez pas cet effet de surprise. J'en profite pour dire aussi que la surprise, il ne faut pas qu'elle soit ratée. C'est-à-dire, si l'effet de surprise a été mal préparé, c'est comme un bouchon fait une bouteille de champagne qui fait pchit, quoi. Hein ? C'est fini. Vous ratez votre coup et vous êtes mort. Poursuite des travaux d'approche par voie détournée. Ça veut dire toutes les opérations de... C'est pratiquement la déstabilisation. Tout ce qui est... on appellera ça aujourd'hui la mésinformation. Hein ? Il y a la désinformation, la mésinformation, c'est tout ce qui est de nature à tromper, par tous les moyens possibles. Et les voies détournées, tout est justifié. Aux yeux de Sun Tzu, il n'y a pas de limite avec lui, il n'y a pas de règle. Donc tout est permis. L'assassinat des chefs, c'est toléré. Par toute forme, hein, empoisonnement, tout ce que vous voulez. Jusque, bien sûr, les fausses nouvelles. Tout est toléré, et le droit de la guerre, comme vous le savez, essayez de clarifier les choses. Les relations claires entre le général et le prince, je l'ai dit tout à l'heure à propos du primat absolu à la stratégie. Pour Sun Tzu, le prince donne la finalité, et garant la finalité, et fixe les objectifs. Le général est en charge de la stratégie, permettant, en s'inscrivant dans cette finalité, d'atteindre l'objectif. C'est simple. Et tout militaire, quand il est interviewé, vous dira à chaque fois, l'objectif, c'est ça. Donc il faut être très clair sur l'objectif. L'objectif, c'est toujours déterminée par le pouvoir politique. Toujours. Même si parfois, même souvent, il y a conflit. Il y a conflit entre les deux, parce que par exemple, les temporalités, ça c'était bien étudié hein, par un autre spécialiste plus récent, enfin, pour l'instant on était à Chomsou, on va voir les plus récents. Ça a été bien étudié par Muraviec, vous verrez son nom après, sur les temporalités différentes. Les temporalités du politique et du stratège ne sont pas les mêmes. Le stratège a la temporalité de la bataille, donc il est généralement dans le très très court terme, tandis que le politique, lui, est dans un autre ordre. Et cet autre ordre du politique fait que, parfois, le stratège a besoin d'un feu vert qu'on lui donnait pour mener une opération, et le politique ne donnera pas le feu vert. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de batailles ont été perdues. Et de guerres ont été perdues, parce que les politiques ont été dans le doute, ont été dans les atermoiements, dans les discussions, dans les palabres. C'est très vrai pour toutes les opérations internationales. Par exemple, quand une opération militaire se fait sous l'égide de l'ONU, quand on voit les casques bleus, pour le dire comme ça, avant que le stratège, le général sur le champ de bataille, pardon, on dit pas champ de bataille, mais théâtre d'opération, comme je le dis, avant que le général sur le théâtre d'opération puisse engager le feu, comme on dit, il faut que l'ONU dise OK. Et avant que l'ONU dise OK, ben, ça peut demander un certain temps. Et pendant ce temps-là, la situation militaire a tellement évolué que quand l'ordre arrive, enfin pas l'ordre, l'autorisation arrive, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est le cas dans les prises d'otages, c'est le cas dans les opérations de commando, etc. Si à toute allure, allez-y. Alors tout ce que je vous dis, il y a des films qui montrent. Hein. Il y a des films. Sur ce que je suis en train de vous dire en ce moment, mais je le reciterai après, il y a un film formidable de Ridley Scott, je ne sais plus si je l'ai cité, La chute du faucon noir. Un film extraordinaire de Ridley Scott, qui montre toutes ces choses-là et qui colle à toutes ces questions stratégiques de manière extraordinaire. Les films de Scott sont toujours hyper documentés, hein, incroyablement documentés, et là, tout ce que je suis en train de vous dire sur ces principes, préceptes, pratiques de Sun Tzu, l'effet de surprise, la différenciation tactique, tactique-stratégie, la différenciation stratégie-pouvoir politique, ONU, c'est traité dans le film. Et c'est merveilleusement bien traité. Il y en a un autre aussi, c'est Crime d'État, je crois, qui est plus récent. Crime d'État, un autre Ridley Scott qui, lui aussi, voit les relations entre le politique et le militaire. Alors, voilà à présent la manière dont Sun Tzu s'exprimait. Pour que vous voyez un petit peu culturellement comment les choses se présentaient, c'est moins facile que les phrases qui précèdent, mais c'est quand même très significatif. Remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas le comble du savoir-faire. C'est la manière de dire, plutôt que de mener 100 batailles, mieux vaut amener l'ennemi à se rendre et à ne livrer qu'une bataille, mais la bonne. Parce que sans bataille, on s'épuise. Et ça a un coût. Alors, attention, hein, ne faites pas de Sun Tzu un humaniste qui pensait à la vie de ses soldats. Il n'y consacre pratiquement pas une ligne. Hein, donc, ne faites pas de faux sens. Aujourd'hui, la vie des soldats, enfin, dans certaines armées, est prise en compte, est très importante. Pour Sun Tzu, un autre film terrible sur la vie des hommes, la vie des soldats, Stalingrad, de Jean-Jacques Hano. Vous l'avez vu ce film ?
Il est passé hier à la télé.
Comment ?
Il est passé hier à la télé.
Ah ouais ? Ah bah mince, je m'aurais dû vous dire de le regarder, comme je ne regarde jamais la télé, il y a encore moins les programmes. Il y a quelqu'un qui l'aurait vu, l'aventure ? Ouais. Alors, ah bah c'est bien. Alors, je saisis ça. Moi, ce qui m'intéresse dans Stalingrad, c'est... Bon, enfin, ce qui m'intéresse sur ce que je veux dire aujourd'hui, en tout cas, je parle du film en général, bien sûr. On n'est pas là pour parler du film, c'est par rapport à des considérations qu'on prend ici. Le début du film, puisque vous l'avez vu, je pense que vous l'avez en tête, et puis peut-être que d'autres... Est-ce qu'il y en a qui l'auraient vu, mais plus... Il y a plus longtemps. Comment ?
Il y a très longtemps.
Voilà. Ah ouais, mais les souvenirs visuels, c'est comme les souvenirs littéraires, hein. faut s'y cultiver. Hein. Bon. Et puis c'est tellement fort, bon, je pense que vous allez vous en souvenir. C'est le début du film, donc on n'est pas encore à Stalingrad, enfin la bataille a commencé. Bon. Non, pire que ça. Il s'agit d'aller enrôler des paysans, des moujiks. Rappelez-vous, c'est la Volga, je crois, Stalingrad, je ne sais plus. Ces braves moujiks sont sur une rive, on les embarque dans des grandes barques, des embarcations, n'importe quoi, il faut qu'ils traversent sous le feu allemand. Donc déjà, les barques, elles ont peu de chances de traverser, elles sont coulées avant, et les types tuent avec. Bon, donc ça c'est déjà épouvantable, parce qu'on voit bien que la vie humaine n'a aucune importance, absolument aucune importance. De toute façon, le réservoir à moujiks, il est de l'autre côté, il est immense. Il y aura toujours des paysans qui seront enrôlés de force, et s'ils veulent pas être enrôlés, de toute façon, ils sont exécutés sur le champ. Donc, le choix est assez réduit, c'est mourir tout de suite en étant exécuté, ou mourir un peu plus tard, voire ne pas mourir si vous avez beaucoup de chance. Enfin, bon. Vous vous rappelez la séquence où la vie humaine n'a aucun prix, elle est épouvantable. C'est une des pires séquences de films de guerre qui a été tournée. Stalingrad. Bon, vous ne rappelez pas, je vous dis. Quand les pauvres types débarquent du côté Stalingrad, du côté de la ville, là, il y a une sorte d'instructeur qui leur dit. Non, vous ne voyez vraiment pas. Il y a deux types. Vous êtes ces deux types. Je suis le sergent instructeur. Vous êtes face à moi, vous arrivez, mais devant vous, il y en a eu 2000 et derrière vous, pareil. Donc, il faut que ça aille vite. Voilà, je vous donne à vous un fusil. Et des cartouches. Et vous, je vous donne des cartouches. C'est tout. Et je vous dis, quand celui qui a le fusil est mort, tu lui prends le fusil et tu continues d'avancer. Parce qu'il est évident que sur les deux, il y en a un qui va être tué tout de suite. Très vite. Et le deuxième, son rôle va être de prendre le fusil de celui qui a été tué pour continuer d'avancer. Et puis, ceux qui sont derrière, avec un peu de chance, ils pourront avancer. C'est épouvantable, vous avez vu ça?
Oui, c'est, je m'en souviens.
Ça vous prend là?
Ça ne m'a pas choqué en fait.
Comment?
Ça ne m'a pas choqué. Ça
ne vous a pas choqué cette séquence?
La batte-garde.
Comment?
La
batte-garde. Ah, ça, je
vous ai pas. C'est juste pour finir au manque d'armes. Quand il dit, moi j'ai pas de fusil, je fais quoi? Bah, tu prends le fusil quand il est mort.
Ouais,
tu...
Ah oui, mais parce que c'est calculé, mais ça veut dire que la vie humaine n'a aucune importance.
Bah oui, c'est la guerre.
Oui, mais à ce niveau-là.
Ouais, c'est une situation particulière aussi, soviétique.
Tout ce que vous voulez.
L'espèce d'avion humaine, c'était pas leur fonds de commerce. Donc.
Tout ce que vous voulez. En tout cas, la séquence est épouvantable. On est bien. Là, il s'agit de remporter 100 victoires en 100 combats. Bon, aujourd'hui, dans les pays développés occidentaux, on n'en est pas là. Je crois que je vous l'ai dit. Et ça, c'est bien dit dans le film de. C'est montré dans le film de Ridley Scott. Quand est-ce que les Occidentaux engagent le combat? Quel est le ratio? 14-18, c'était 1 pour 1. Pour un Français tué, il fallait qu'il y ait un Allemand tué. 1 pour 1. C'est simple. Arithmétique simple. 1 pour 1. Aujourd'hui, quand est-ce. Enfin, du temps déjà de l'opération en Somalie, lorsque Ridley Scott a fait son film, quel était le ratio? On envoie un soldat américain quand on est certain que pour un Américain tué, il y en aura 50 en face. Aujourd'hui, le ratio est passé à 100. Il est à plus de 100. Donc, on n'engage pas le combat tant qu'on n'a pas la certitude que pour un tué de ses forces à soi, il y en aura 100 en face de tué. On y va. Oui, vous voyez le type de ratio. Alors, vous pouvez dire que c'est épouvantable pour ceux qui sont en face. Ouais, mais c'est plus économique. Parce que si je fais le ratio, ça fait 1 et 100, ça fait 100 à mort. 14-18, c'était 200 morts. C'est mieux, non? Je m'amuse à faire un ratio parfaitement épouvantable et cynique. Hein, mais on peut dire que de ce point de vue-là, il y a peut-être progrès. Bon, alors voilà le genre de phrase de Sun Tzu. Il faut qu'on avance. C'est de s'attaquer à la stratégie de l'ennemi. Ça, c'est très beau. C'est très, très beau. Votre vrai ennemi, c'est pas la personne qui est en face de vous, c'est la stratégie. Donc le plus important, c'est de connaître la stratégie de l'ennemi. Autrement dit, d'être capable de prendre, rappelez-vous ce que j'ai dit pour la com politique, de prendre la place de l'ennemi, l'adversaire, de penser comme lui et d'essayer de faire mieux que lui. C'était mon petit test de recrutement pour la communication politique que je vous avais donné dès le début. Hein, dès le début. Bah, il vient de là. Vous voyez, aujourd'hui, d'où est-ce que je l'ai tiré? Donc, s'attaquer à la stratégie de l'ennemi, c'est vraiment le plus important. Et pour ça, seuls les grands stratèges peuvent le faire, parce qu'ils sont capables de prendre la place de l'autre. Les mauvais stratèges, ils sont toujours dans leur système. En communication, pour nous, alors, est-ce qu'il faut qu'on prenne des exemples tellement c'est flagrant? Si vous faites toujours comme les autres, ben c'est pas comme ça que vous aurez l'avantage. C'est bien connu en pub, par exemple. Hein, je vais peut-être pas le détailler, là, c'est tellement évident que... bon. Ça, c'est encore plus fort. Si vous êtes ignorant de l'ennemi et de vous-même, vous êtes sûr de vous trouver en péril à chaque bataille. On retrouve une idée qui a été reprise. Quand je dis ça a été repris, attention, personne ne connaissait Sun Tzu. Hein. Il ne s'agit pas de dire que ces gens qui ont copié la pensée Sun Tzu, puisqu'elle était totalement inconnue chez nous. Et à la fin du 19e, il y avait quelques dizaines de personnes qui avaient entendu parler de Sun Tzu, c'est tout. Les sinologues. Personne d'autre. Bon, donc quand je dis repris, c'est pas au sens copier-coller, ça ne fait pas un faux sens. Hein. En tout cas, cette idée, c'est de dire que la guerre, c'est le moment qui nous révèle à nous-mêmes. L'écrivain Joseph Conrad a écrit des choses extraordinaires là-dessus. Enfin, il y a plein de grands écrivains qui ont écrit des choses sur la guerre qui nous révèle. C'est à la fois horrible la guerre, c'est abominable, c'est la mort, la violence, les horreurs. Mais c'est aussi le moment où on est face à soi-même, où on se révèle à soi-même. Mais ben, ce qu'on dit, ce thème très très fort, Sun Tzu l'avait déjà esquissé en disant que vous ne pouvez pas être un général si vous ne connaissez pas vous-même, si vous ne connaissez pas vos limites, si vous ne connaissez pas vos défauts, si vous n'êtes pas capable de prendre conscience de ce que vous ne savez pas faire. Peut-être que le pire de ça, encore un film, hein, parce que là c'est... C'est vrai qu'il y a des années que j'aurais voulu faire une filmographie complète, puis des extraits. C'est facile, mais ça prend un temps considérable. Le film qui montre ça, mais qui le montre de façon absolument épouvantable et cynique, c'est un Stanley Kubrick, que vous connaissez peut-être celui-là quand même, Les Sentiers de la Gloire. Qui a été un film de Kubrick, interdit en France pendant... plusieurs décennies. Pourquoi? Parce qu'il montrait comment l'état-major français, en 14-18, était en partie, en partie animé par une bande de joyeux irresponsables. Incompétents, irresponsables. Les incompétents, irresponsables, eh ben, ils étaient totalement ignorants de l'ennemi, ignorants de leurs incompétences. C'est comme ça qu'ils envoyaient des régiments entiers à l'assaut, et ça se soldait par 90 ou 95% de pertes. Ce qui ne changeait rien à la vie de ces braves généraux. Et le film de Kubrick, vous l'avez vu? Les Sentiers de la Gloire? Ah! Alors, un des moments les plus forts peut-être? Sur la fin?
Ah bah, on peut nous dire la fin.
Non, sur la fin. Un des moments les plus forts. Non, la fin, c'est quand il chante, cet air est extraordinaire. Non, mais un des moments les plus forts, c'est lorsqu'un général, le combat n'avance pas. Les Allemands sont là, les Français sont là, on n'arrive pas à sortir des tranchées. Et à un moment, les soldats français refusent d'aller à l'assaut. En disant, c'est inutile, on a déjà plein de copains qui sont morts, pour rien. Les Allemands sont trop forts pour le moment. Là, les effets de surprise, il n'y en a pas. La ruse, il n'y en a pas. La guerre 14-18, de ce point de vue-là, c'est peut-être la pire des guerres qui ait été faite pour une sorte de primat donné à la bêtise. Quoi. Le général dit monter à l'assaut quand même, je m'en fous, parce qu'il pense à sa carrière. Il pense à son étoile. Et là, c'est montré par Kubrick, c'est terrible. Vous êtes général des étoiles, vous en avez une troisième, vous en avez trois, vous en avez une quatrième. Il y a toujours quelque chose au-dessus. Bon. Et donc, il donne l'ordre de monter au front. Les types refusent. Et là, qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'ordre à l'artillerie de tirer sur ses propres soldats.
Ça se fait aussi dans la scène. Juste après la scène.
Quand les fuyards, ils
tout à fait. Ça se montre aussi dans sa littérature. La différence, c'est que Kubrick montre comment ça se fait dans un état démocratique. Le capitaine d'artillerie qui voit ça, il voit tirer sur telle position, il voit tout de suite c'est sur ses trois propositions, mais là il demande une confirmation d'ordre. Ce que, à l'époque soviétique, si vous demandiez une confirmation d'ordre, vous étiez passé par les armes sur le champ. Là, on est encore dans une démocratie, et il demande une confirmation d'ordre. Et bien sûr, ce secrétaire général confirme son ordre. Et il fait tirer sur ses propositions.
Ce qui fait que le film a été interdit.
Parce que pour le général français, bon, généralisons pas. Ça explique aussi une chose, hein. Ça explique aussi une chose. Qui peut-être pour vous a été dur à comprendre. La façon dont les gens ont cru en Pétain en 30, en 40. Nous, avec le recul du temps, on dit, enfin. Les Français ont cru en Pétain en 40, alors que Pétain a vu la collaboration, ce que ça a été, le Vélie et compagnie, ce sont des choses épouvantables, que chacun sait. Bon. Vous voyez l'argument? Sauf que le général, qui a été un peu moins inhumain, pour ne pas dire totalement humain, avec ses troupes, c'était Pétain. Et en 39-40, 18, c'était combien, hein? 18-39, ça fait 20 ans. En 20 ans, l'image de Pétain était très très forte parmi la population française. Ce qui fait que Pétain avait cette image du vainqueur de Verdun, mais un type humain avec ses hommes, ils n'envoyaient pas au Gaspi pour le plaisir d'envoyer au Gaspi. Puis il avait une réputation de général, de grand général et intègre, aimant ses hommes. Ce qui explique aussi le succès de Pétain au début. Après, bon, c'est autre chose. Mais on a toujours du mal à comprendre ça quand on projette sur quelqu'un ce que l'histoire nous a appris de sa responsabilité dans ce qui a suivi à partir de 1940. La politique de collaboration avec l'Allemagne, bien sûr. Mais au début, personne ne le savait.
J'en profite pour vous le dire. Pour éviter peut-être les schémas un peu rapides. Un chef d'armée qualifié demande les victoires à la situation et non à ses subordonnés. C'est-à-dire que si vous êtes un grand général, vous devez tout mettre en œuvre pour que la bataille soit gagnée, et ce n'est pas à vos subordonnés de la gagner. Ce qui veut dire en clair que si vos subordonnés ne la gagnent pas, le responsable, c'est le général. Ça en com, enfin en com, ailleurs qu'en com, hein, mais nous parlons de com ici. Ça marche très bien.
Ne demandez pas à vos graphistes de rattraper une mauvaise stratégie de com. Ou à votre primeur, ou à votre site web. Si votre stratégie elle est mauvaise, ce n'est pas les opérations techniques que vous allez faire qui vont modifier la chose. Et ce ne seront pas ces gens-là qui seront responsables de votre échec. Le responsable, ce sera vous, en tant que mauvais stratège. Le stratège qui n'a pas su prévoir les choses et qui a, en conséquence, conduit droit à la catastrophe.
Autre notion très importante.
On a un peu tendance à penser que la stratégie, c'est gravé. Hein. Le stratège pense, vous avez donné quelques phrases qui sont ironiques pour la stratégie. Rappelez-vous, devant les mystères qui nous dépassent, feignons au moins d'en être les organisateurs, disait Jean. Donc, tout un tas de phrases pour se moquer de la stratégie. On a tendance à penser que la stratégie, c'est un truc sérieux, fort, et qu'on ne va pas changer, quoi. C'est la stratégie, c'est comme ça. Qu'est-ce que nous dit Sun Tzu? Le contraire. C'est très étrange, cette phrase. En modifiant sa tactique, alors elle dit tactique, hein, d'accord, donc c'est un petit coup de stratégie. En fonction de la situation, il est libre. Donc celui qui va gagner, c'est, on pourrait dire, en termes actuels, celui qui est pragmatique. Celui qui, en fonction du contexte et de la situation, va accepter de modifier des éléments entiers de la stratégie. On avait prévu ça? Oui, mais ça ne passe pas comme ça. Bon, et bien, autre chose. Ça a donné la fameuse appellation de plan B, vous savez. Bon, j'ai mon plan A, mais j'ai un plan B, pour le cas où. Ou un plan C, ou un plan, etc. Il y a des limites, hein. Sun Tzu prend bien soin de dire tactique. J'ai dit que nous, qui appelons tout stratégie, on pourrait prendre une stratégie locale. Ça veut dire aussi qu'il faut laisser l'initiative locale, et ça, il faut organiser un système de commandement pour qu'il y ait le sens général, et là, vous voyez venir avec le M2, parce que le sens général, ce sera aujourd'hui ce qu'on appelle la vision. Donc il y a un sens général, et il y a des initiatives locales qui vont être prises en fonction de, du terrain, en fonction du contexte, direction de l'adversaire, bien sûr. C'est une idée très étrange, et ça montre quand même le génie de cet obscur général. Hein, parce que le Sun Tzu en question, c'était un général, mais il y en avait des milliers d'autres en Chine. Bon, mais le génie de Sun Tzu, que d'avoir pensé tout ça, à une époque où on va dire ça comme ça, on n'avait pas tellement de réflexion avant lui, peut-être y en avait-il, hein, peut-être y a-t-il d'autres textes sur lesquels Sun Tzu s'est appuyé, mais qu'on ne connaît pas. On n'en sait rien. Tout ça est tellement vieux qu'on ne peut pas le savoir. Bon, voilà Sun Tzu. Est-ce que je conclue sur lui ? Ouais, peut-être que j'ai été un petit peu vite. Donc je conclue sur Sun Tzu, oui quand même, parce que je vais aller vite, mais... Conclusion sur Sun Tzu, c'est le premier à avoir théorisé sur la guerre, dans l'art de la guerre, c'est le premier à avoir érigé quelques principes, dont une partie d'entre eux, de ces principes, sont encore aujourd'hui totalement d'actualité, d'une part, et facilement transposables pour nos communications de l'autre. C'est quand même pas rien. Parmi tous les principes que Sun Tzu a édictés, il y en a qui sont extrêmement importants, facilement compréhensibles. Peut-être, là c'est un choix que je donne moi, mais vous pouvez en prendre un autre. Peut-être l'effet de surprise. Peut-être la rapidité. Et le fait qu'il faut essayer de ne pas livrer combat. C'est, je crois, les trois plus importants. Mais dire aussi que Sun Tzu ne s'encombre pas de considérations éthiques ou morales, et que pour lui, le renseignement, la déstabilisation, tout ce qui peut être de nature à casser le moral de l'adversaire est justifié. Et c'est peut-être là un état de civilisation plus avancé que la Chine de l'époque nous a mis un certain nombre de restrictions et de barrières, au moins dans l'activité civile, la communication, et partiellement dans la guerre, comme vous le savez. Voilà ce qu'on peut dire sur lui. Je vous invite quand même à regarder le petit bouquin édité en livre de poche, dans lequel vous avez les textes, enfin une partie des textes de Sun Tzu et beaucoup d'annotations d'appareils critiques qui vous permettent de le resituer dans son temps, bien sûr. J'ai pas le temps de vous raconter quelques anecdotes savoureuses sur Sun Tzu et ses concubines. Il y a des trucs très 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 rigolos, vous verrez comment, je vous dis juste comme ça mais sans l'expliquer, comment est-ce que le général, pour convaincre le prince que c'est le général qui a raison, eh bien il fait couper les têtes de plusieurs de ses concubines. Oui, c'est un moyen radical pour que le prince se dise on coupe la tête d'une et puis d'une deuxième, d'une troisième, peut-être. C'était à chaque fois que le prince prenait une mauvaise décision stratégique, Sun Tzu lui montrait que sa décision était mauvaise. Et comme il fallait bien marquer la chose, on coupait la tête des concubines à chaque fois. Un moyen comme un moyen de conviction. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il penserait bien, mais enfin, je vous dis comme ça. Il y a quelques anecdotes de cet ordre-là qui montrent bien, je le dis en souriant, mais un décalage culturel fantastique, bien sûr, par rapport à notre période. Voilà. Alors, je ne parle pas de Machiavel, enfin je ne consacre pas une diapo à Machiavel, même si dans Le Prince, il évoque ces questions-là. Mais Machiavel parle beaucoup plus de relations politiques que de stratégie, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis. Après lui, on va franchir des siècles, on va se rapprocher de notre période, et on va aller voir un général prussien, dont la date apparaît pas bien, mais 1700, oui c'est vrai, 1831. De toute façon, voilà, vous allez le retrouver. Un général prussien, Clausewitz, Karl von Clausewitz, qui est mort en 1831, et dont le bouquin fondamental, enfin le bouquin c'est très épais, il y a plusieurs volumes, s'appelle « De la guerre » et a été publié, comme vous le voyez, post-mortem, comme on dit, après sa mort, un an après sa mort, par des gens avec qui il travaillait. Alors, ce Clausewitz général prussien,
a écrit ce bouquin
un petit peu pour comprendre pourquoi toutes les armées européennes s'étaient faites battre par Napoléon. Napoléon n'a jamais écrit d'ouvrage stratégique. C'était un immense stratège, Napoléon. Et par Clausewitz, qui a été battu tout le temps, sauf la dernière fois, Waterloo bien sûr, qui a été battu tout le temps, on sait un petit peu comment fonctionnait Napoléon. Donc vous voyez, c'est un étrange détour. C'est par un ennemi de Napoléon qu'on a une partie des concepts stratégiques de Napoléon, qui lui n'a pas écrit sur la stratégie. S'il avait écrit, on le saurait, mais il n'a pas écrit sur la stratégie. Alors, ça peut, dans sa correspondance, hein, quand j'y ai pas écrit, il peut y avoir par raccroc quelques. Dans le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz, il y a des allusions, mais il n'y a jamais de considération purement stratégique pour dire comment est-ce qu'il a gagné la bataille de Sterlitz, et tout un tas d'autres grandes batailles, etc. Qui là, pour le coup, sont bien célébrées à Paris, comme vous le savez, il y a beaucoup d'avenues. Alors, ce Clausewitz, on le connaît, lui aussi, il est très connu. Hein. Je pense pas que vous connaissiez les historiens, historiennes peut-être. Non. Personne n'a entendu parler de Clausewitz. Disons qu'il est aujourd'hui encore enseigné dans les écoles militaires. Quand on fait les écoles militaires, hein, les différents types d'écoles militaires, on enseigne toujours la pensée de Clausewitz. À l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN, on enseigne, il y a toujours des cours sur Clausewitz. Et j'ai été moi-même chercher quelques cours sur Clausewitz pour voir un petit peu ce qu'on enseignait. Alors, de Clausewitz, il y a toute une partie technique, tactique sur le champ de bataille. J'en parle pas, bien sûr. Ça ne vous intéresse pas ici. Hein. Je prends les grands principes clausewitziens tels que, finalement, il a transcrit ce qu'il pensait être l'approche, la doctrine de Napoléon. Le premier, c'est celui-là, qui a continuité absolue entre la guerre et la politique. La phrase célèbre, la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens. La politique utilise la diplomatie généralement. Hein. Okay. Mais quand la diplomatie ne suffit plus, on passe à d'autres moyens. D'autres moyens, c'est la guerre. C'est une manière très forte de dire que la guerre doit toujours se faire avec des analyses politiques, avec des objectifs et des finalités politiques. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre. C'est pas toujours le cas, hein. En particulier dans les guerres civiles, on fait la guerre parce qu'on n'aime pas l'autre. Dans les guerres religieuses, est-ce qu'il y a un objectif de guerre? Est-ce qu'il y a une finalité? S'approprier des ressources? Généralement, la guerre, c'est pour s'approprier des ressources, c'est ce que je vous ai dit. Du temps de nos ancêtres préhistoriques, certainement qu'ils se bagarraient parce qu'il y avait une source, et ils se bagarraient pour avoir la source. Hein. Bon. Les guerres civiles, les guerres religieuses, ce ne sont pas ces motivations-là. Ce sont des guerres dans lesquelles il s'agit avant tout de se débarrasser de l'autre qui ne pense pas comme nous. Et pour s'en débarrasser, dans ces cas-là, tous les mensonges, je vous rappelle aussi que les guerres civiles sont souvent les plus cruelles. C'est celles dans lesquelles, depuis le début, on a renoncé aux règles de la guerre entre pays. La guerre entre pays fait l'objet de règles. La guerre civile, les attentats, le terrorisme existe, on va dire, pratiquement de tout temps dans les guerres civiles, il y a pratiquement toujours eu du terrorisme. Des exécutions sommaires, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas dans la guerre entre deux nations, par exemple. Les attentats dans les guerres entre deux nations, c'est impossible. Alors, la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens, autrement dit, une guerre est toujours politique, c'est ça. Il y a toujours de la politique dans la guerre, il n'y a que ceux qui ne comprennent rien à la stratégie qui l'ignorent. Alors, appliqué pour nous en com, ça ramène tout ça à la finalité, aux objectifs. Autrement dit, une stratégie de communication est toujours quelque chose qui est inscrit dans finalité, objectif, sinon ça ne sert à rien, c'est vain. Bon, Clausewitz met lui aussi l'accent sur la solidarité très profonde entre les deux, ce qui est un corollaire de ce qui précède, bien sûr. Alors il se trouve que Pour Clausewitz, on va retrouver la séparation prince-général, ce qui n'a pas marché avec Napoléon. Puisque Napoléon fait partie de ces personnages dans l'histoire qui ont confondu les deux rôles, puisqu'il était à la fois prince et général. Il y a eu des précédents. Alexandre le Grand, pour en citer un, il y a eu plusieurs précédents dans l'histoire. C'est pas parce qu'une règle a été dictée que pour autant c'est pas possible. En tout cas, il y a des cas exceptionnels dans lesquels le prince peut être le général, à savoir si le prince est aussi bon général ou le général aussi bon que le prince. Ça, c'est votre jugement personnel sur Napoléon. On n'est pas là pour le tenir, bien sûr. Clausewitz insiste beaucoup, beaucoup sur le but de guerre. Quel est le but ? Et dans le but, il y a le but officiel, avoué, et il peut y avoir des buts non officiels, implicites. Et ça, on a beaucoup de mal à le comprendre aujourd'hui, et la pensée de Clausewitz, de ce point de vue-là, aurait peut-être été utile pour mieux comprendre, par exemple, allez, je prends la guerre qu'on avait fait, enfin, les Américains et quelques autres, la Grande-Bretagne, en fait, en Irak, la deuxième fois, avec Bush fils et Bush père, et la deuxième fois. But de guerre, vous en rappelez ? Les armes de destruction massive. But de guerre officiel. C'est ce que je disais justement, hein. Il y a toujours un but de guerre officiel, c'était les armes de destruction massive. Il a fallu inventer ce qu'on appelle aussi, un casus belli. Un casus belli, un cas de guerre. Alors parfois la ruse consiste à entraîner l'ennemi à commettre l'erreur qui va être un casus belli. Je vais vous donner des exemples beaucoup plus faciles du casus belli. Vous êtes deux entreprises en concurrence, dans un appel d'offres par exemple, et vous allez faire en sorte que votre adversaire commette une erreur du genre de ne pas respecter tel point de l'appel d'offres ou des choses de cet ordre, et il sera en cas de subi, c'est-à-dire que c'est lui qui va se retrouver en situation difficile et il gardera son appel d'offres. Un autre exemple de casus belli, l'éducation d'un petit enfant. Il y a des circonstances où il faut pousser un petit enfant à faire une bêtise. Il faut tout faire pour qu'il fasse la bêtise. Par exemple, qu'il se fasse la figure, qu'il se blesse. Parce que s'il se blesse, quand vous contrôlez. Ouais, mais pas en lui fracassant la tête contre l'ordinateur. En organisant les choses pour que, sans qu'elles s'en rendent compte, elles ne se fassent pas avec l'ordinateur. Et si vous organisez les choses, le petit enfant va faire la bêtise, avoir l'accident. Et vous rajoutez toutes les couches que vous voulez. Soit des couches de langage, soit des couches de violence, enfin ça c'est ça vous regarde. En tout cas, vous ajoutez ce qu'il faut comme traitement pour qu'ils s'en souviennent. C'est le casus belli. On cherche le cas. Bon, alors, le but de guerre pour l'Irak, on vient de le dire, c'était les fameuses armes de destruction massive. Bon, on s'est rendu compte que les armes de destruction massive, il y en a eu. J'ai lu un bouquin impressionnant sur les services secrets britanniques cet été, bien sûr qu'il y en a eu. Mais l'opération était tellement longue à se mettre sur pied que quand les Occidentaux sont arrivés, vous pensez bien que tout était parti. Bon, très bien. Mais ça, c'était le but de guerre officiel. Bien sûr que derrière ce but de guerre officiel, il y a quasiment toujours un ou des buts de guerre officieux. Et pour l'Irak, on pouvait lister assez rapidement, assez facilement, les buts de guerre officieux. Et là, il s'agit bien sûr de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop connus, mais ça paraissait totalement évident. Bon. Donc, ces buts de guerre, nous, en communication, ça nous pose problème, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on articule une communication qui ne va pas être très, très sincère pour le coup. Hein ? On va dire qu'on acte la communication sur quelque chose, mais en fait, on tape à côté. La communication politique, c'est très bien faire ça aussi. Hein, elle désigne une cible, mais en fait c'est une autre qui va être atteinte, par ricochet. Pour communication produit-service, ça peut être le cas. En publicité, ça porte un nom, ça s'appelle le décalage. Vous décalez la cible. Vous semblez vous attaquer une cible et vous traitez d'une autre. Donc on a les équivalents du but de guerre. Nous aussi, en tout cas, il faut être au clair par rapport à ça.
Clausewitz, il a ceci d'intéressant que par rapport à tout un tas d'autres auteurs, parce que là je ne vous traite que les très grands auteurs qui ont survécu au temps. Hein. Vous doutez bien que dans les écoles militaires de tous les pays, il y a eu des tas de spécialistes qui ont écrit des traités de la guerre, hein. Bien sûr que oui. Mais ce que reprochait Clausewitz, qui avait une approche assez empirique, c'était qu'il y avait beaucoup trop de théories et de dogmes. Une des belles applications du dogme guerrier, tout le monde l'a en tête, la bataille de Fontenoy entre les Français et les Anglais. Messieurs les Anglais, tirez les premiers, parce qu'on se fait la politesse. Ben, vous allez descendre mon premier fantassin, et voilà. Bon. Donc là, on était dans le dogme, dans une sorte d'usage d'apparat de la guerre. Et Clausewitz, d'ici un but de guerre, forcément pour l'atteindre, on ne va pas perdre du temps avec des théories dépassées, inadaptées, et en tout cas, qui ne seront pas prises en compte par l'ennemi. Donc on sera dans la quasi-certitude de perdre. L'autre aspect de Clausewitz, et la lecture de son ouvrage n'est pas très très drôle pour ça. Parce qu'au fond, Clausewitz, pour lui, la guerre, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire sur Terre. On est donc en présence d'une philosophie de l'effort, du sacrifice, du courage permanent. C'est pour ça que je dis que c'est pas très marrant, parce que tout le temps, il est dans la notion du sacrifice. Que la guerre, c'est le moment de se révéler à soi-même, que la guerre, c'est ce qui nous fait grandir. Vous voyez, ce genre de choses aussi. Surtout aujourd'hui. Hein, puisqu'on est dans le centenaire de 14-18, on s'interroge, effectivement, on a du mal à comprendre, nous, 100 ans après, comment est-ce que ces types ont accepté, sauf certainement des ordres qui étaient quand même un peu... limite, quoi. Hein? Bon. Donc, ce qui pouvait se faire encore il y a 100 ans, bien sûr qu'aujourd'hui, enfin, il semblerait, on dirait qu'on n'a pas expérimenté, peut-être que ça vaut mieux. Quoi. On n'a pas l'expérimentation en grandeur réelle pour voir comment est-ce qu'on ferait aujourd'hui. Mais on peut penser, effectivement, que ça ne se passerait, bien sûr, pas du tout comme ça. Bon, ceci dit, s'il y a un pays qui le fait, bon, bref. Donc, philosophie de l'effort, du sacrifice, du courage, ça, c'est peut-être ce qui a le plus vieilli dans les écrits de Clausewitz. Et là, c'est aussi à vous de voir si, en com, est-ce qu'il faut du courage. Moi, j'ai envie de dire oui, parce que s'il n'y a pas de courage en com, ça ne colle pas. Est-ce qu'il faut avoir le sens du sacrifice? Ben oui. Le DIRCOM, parfois, c'est le fusil dans une boîte. On dégage le DIRCOM pour protéger le boss. Regardez en politique. On n'hésite pas à virer un conseiller en communication. On le renvoie comme un valet, comme un laquais. Vous voyez ? Ça continue de marcher. Le sacrifice, ça marche à fond. Le courage, ça marche. Et l'effort, ça marche pas. Ogilvy, quand il vous dit qu'il faut bosser comme un malade pour connaître tout, le produit que vous allez promouvoir, c'est pas des efforts à fournir. C'est peut-être pas des efforts au sens aller au front, la poitrine en avant, en disant que les balles me transpirent parce que comme ça je serai heureux. C'est peut-être pas à ce point-là. Mais n'empêche que. Vous voyez ? Et là, je vous laisse vous-même répondre à ça. Est-ce que c'est la façon dont vous concevez la com? J'ai pas de réponse. Hein. C'est à chacun, à chacune d'entre vous de voir si vous êtes dans cette conception du courage, est-ce qu'il faut avoir le courage de s'opposer ou pas. Je vous laisse. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Hein. On est d'accord, je répète hein, encore une fois, je vous mets dans ce cours en situation de stratège, donc de dire com. Okay. Un opérationnel de la com, quelqu'un qui est en PA ou qui fait son site web, n'a pas à se poser ces questions. Bien d'accord. Hein? Bon. Là, c'est quand vous êtes en situation de décider, parfois, de vous opposer à une direction, par exemple, qui va pas aller dans le sens qui est le vôtre. Voilà, alors, il y a toutes les réflexions sur les batailles gagnées par Napoléon. Ben, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il y passe des pages et des pages. Il n'a pas été reconnu tout de suite. En fait, c'est pour la guerre de 1870 entre l'Allemagne, enfin la Prusse, et la France, puisque l'Allemagne de l'époque, certes, c'était l'Allemagne, Bismarck, ok, mais enfin, il n'empêche que c'était essentiellement la Prusse, et c'est le général prussien qui a vaincu le neveu de Napoléon, donc Napoléon III, qui a mis en œuvre tout ça dans les guerres de 70. Bon, voilà. Alors, les autres concepts qui sont forts... Clausewitz, c'est noir, c'est sombre, c'est triste, C'est terrible, là, ce que je vous montre. Inéluctabilité des conflits. Pour Clausewitz, le conflit est consubstantiel de l'être humain. Nous sommes des êtres violents. On va toujours avoir la convoitise pour ce que nous n'avons pas. Et toujours, on voudra voler à l'autre ce qu'il a et qu'on n'a pas. Donc, pour lui, les conflits, ils sont permanents. Et les périodes de paix sont des périodes où il faut préparer les conflits. Rappelez-vous ce qu'on avait dit une fois, cette autre phrase latine, « Si vis pacem, para bellum ». Merci. Si tu veux la paix, « Si vis pacem, para bellum ». Prépare la guerre. Là aussi, on n'a pas dit, celle-là. Mais c'est exactement cette philosophie. La guerre est inéluctable. C'est drôle de dire ça. Transposer en communication, là au contraire c'est bien, parce que la communication est inévitable, ça nous fait du boulot. Comme dira les militaires au fond, sauf qu'eux ils risquent leur peau. Malgré tout, dans l'opération, nous en com, c'est rare qu'il y ait des morts au combat quand même. Ça peut arriver, mais c'est rare. Bon, concept de guerre totale. La guerre totale, c'est toutes les ressources d'un pays doivent être monopolisées pour la guerre. Tout. On abandonne tout le reste. Ça donne naissance à ce qu'on appelle l'économie de guerre. Avant lui, on n'en parlait pas. Économie de guerre. Donc, l'effort entier d'un pays est orienté vers la guerre. Toute la production est réorientée. Plus rien ne compte d'autre que la guerre. Guerre totale. Pour gagner une guerre, il faut s'en donner les moyens. Donc, bien sûr, suspension des règles démocratiques. En plus de son temps, les règles démocratiques, bon, on n'est pas trop quand même. Suspension des droits les plus élémentaires. Tout ça au profit de la guerre qui doit être totale pour être gagnée. Là, on a eu beaucoup de débats là-dessus. Et le 19e siècle et la fin du 19e et le 20e ont apporté des correctifs à la pensée Clausewitz. Principes généraux, on les connaît déjà, désignation précise d'objectifs par le pouvoir politique. Là, on retrouve Sun Tzu pratiquement, c'est le prince qui décide. Renseignement, en voilà un deuxième. Désinformation, atteinte au moral de l'adversaire, tous les moyens sont bons, tout. Il n'y a pas de limite, lui non plus. Pourtant, on est au 19e. Hein. Prise de risque. Alors c'est drôle comme Clausewitz, qui est pour le courage, dit que la prise de risque doit être modérée. C'est-à-dire que l'attaque inutile, il est contre. Vous savez, l'attaque pour aller prendre telle ou telle redoute, telle forge, je ne sais quoi. En communication, ça veut dire même tenter quelque chose que quand on est quasiment sûr de gagner. Ne prenez pas des risques. Prenez des risques, mais pas des risques inutiles. Les grands risques, ça ne sert à rien, vous allez gaspiller de l'argent et parfois même couler une entreprise sur une idée qui ne sera pas suivie des faits. Ah, formidable. Lui aussi. Vous allez voir tous. C'est vrai que ça, vous n'êtes pas convaincu qu'un bon communicant doit être quelqu'un capable de ne pas penser comme les autres et de toujours agir par surprise, eh bien, ça désespère. Concentration avant l'attaque, ça c'est nouveau.
Il est plus ce psychologue que Sun Tzu qui reste au grand principe. Concentration avant l'attaque. Ça a donné Brissy. La plupart des films de guerre ont tous une séquence de bravoure sur le briefing, avant l'attaque. Là où vous allez expliquer aux gens ce qu'ils vont faire, vous allez les motiver. Et les motiver. Comment ?
On dit que c'est épique.
Oui ? Ça peut être un discours épique. Épique. Je vous avais cité, je crois, cette pièce de Shakespeare extraordinaire, enfin, surtout extraordinaire, Henri V. Bon, alors, il y a encore un film. Enfin, c'est une pièce de Shakespeare, mais un film, bien sûr. Un film de cet acteur fameux, anglais extraordinaire, qui a tourné pas seulement Shakespeare, mais d'autres choses, Kenneth Branagh. Vous ne pouvez pas ne pas connaître Kenneth Branagh. C'est pas Kenneth Branagh. Un type qui a tourné sous le Shakespeare. En tant qu'acteur, c'est un grand acteur, c'est peut-être le plus grand acteur shakespearien. Et en plus, il est réalisateur. Mais il a aussi tourné dans des films grand public, hein, Ocean Eleven, je ne sais pas quoi. Enfin, vous le voyez avec les plus grands films. Il est second rôle, hein, donc il est avec Brad Pitt. Tout le monde se rappelle de Brad Pitt et un peu moins de Branagh. Bon, bref. Personne n'a vu Henri V ? Encore un autre. Vous vous rendez compte tous les films que vous allez avoir, c'est merveilleux, pour une fois. C'est une filmographie, il faut se passer une filmographie. Alors, Henri V, je vous raconte vite parce que l'heure avance. Et j'attends aussi de voir, parce qu'il se peut que mon intervenant arrive. Alors, ça, j'ai un peu de temps. Ça, je vous le raconte, mais très très vite quand même. Essayez de voir ça, tellement c'est extraordinaire. Henri V, alors, ça se situe en 1415. Bataille des Incours. Henri V, c'est le roi anglais. On est dans la guerre de 100 ans. Hein. Le roi anglais est en Normandie. Dans un cours, c'est dans le nord de la France. Il est totalement isolé de ses bases. Vous voyez, vous êtes en Normandie, les bases anglaises, ça fait loin quand même. Il y a la Manche à traverser au début du 15e siècle, les bateaux, hein, bon, pas assez vite. Okay. Isolé. Ça fait des mois qu'ils sont en France. Ils n'ont plus de ravitaillement, ils n'ont plus beaucoup d'armes, etc. En face d'eux, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans la bataille qui va se livrer le lendemain, toute l'armée française, en particulier la cavalerie française. La cavalerie française, c'est comme dans tous les pays, les grands pays aristocratiques, c'est toute la fleur, la fine fleur de l'aristocratie. Les fils des plus grandes familles aristocratiques sont forcément dans la cavalerie. Donc toute l'aristocratie française, qu'elle a. Et puis bien sûr, les fantassins, tout ce que vous voulez. Et dans cette séquence que je vous recommande de voir, tellement c'est extraordinaire, Branagh a un talent fabuleux. Interprète ce que Shakespeare a écrit comme discours de motivation, de concentration. Et alors je ne vais pas vous l'interpréter parce que je ne suis pas Branagh et je ne connais pas le texte par cœur, mais je vous donne juste un petit peu la teneur. Ils sont isolés. En face d'eux, il y a une armée hyper puissante, qui est fraîche en Provence. Donc le discours commence en disant à ses troupes, mouvement de caméra et tout, très bien filmé, en disant à ses troupes, aujourd'hui est un grand jour, alors c'est la Saint-Machin, c'est la Saint-Crétin. C'est un jour qui restera à jamais dans l'histoire, parce que c'est le jour où le peuple anglais se sera défendu avec tout le courage que son histoire peut lui donner contre l'ennemi français. Il continue, et là ça va arriver beaucoup plus fort. Alors je vous le dis pas en anglais parce que je ne peux pas tout comprendre, ça commence shame. Shame. Mais la honte, c'est quoi? Alors je vous dis un petit peu, hein, vous êtes les soldats anglais, honte aujourd'hui sur ceux qui seront vivants ce soir. Honte sur vous qui serez vivants ce soir. Vous finirez votre vie à regretter de ne pas être mort aujourd'hui. Parce que ceux qui vont mourir aujourd'hui sont ceux qui vont faire l'histoire. Qui vont faire que le royaume d'Angleterre va se succéder à lui-même. La grandeur de l'Angleterre, c'est ceux qui vont mourir aujourd'hui. C'est pas ceux qui restent vivants. Ça se coule un peu quand on dit comme ça. Voilà le genre de discours. Et ce qui s'est passé, le résultat on connaît, eh ben, les Anglais, à la fois par ce discours, on va donner deux arguments. Ce discours extraordinaire, sûrement. Et deuxièmement, pour un argument technique, à savoir que les arbalètes, les arbalètes anglaises, lançaient des flèches plus loin que les arbalètes françaises. Ça, c'est Laurent Muravier, avec un autre stratège dont on va parler après, qui raconte dans un bouquin qui explique très bien tout ça. C'est le rapport de la technologie à la guerre. Comment se faisait une guerre à l'époque? C'était très facile. Vous envoyiez les flèches d'arbalètes sur les fantassins. On faisait avancer les fantassins et on tirait sur les fantassins. On en tuait plein. Et puis après, la cavalerie, on rentrait en jeu. Donc la bataille s'engage comme ça. Les Français envoient les fantassins. La cavalerie derrière. Et attend que les fantassins aient fait user le flèche. C'est ça le but du jeu. C'est faire user les flèches de ceux d'en face. Parce que quand ils n'ont plus de flèches, quand ils en ont moins, vous envoyez la cavalerie. Enfin, très simple. Là, c'est la tactique. Il se trouve que comme les arbalètes tiraient plus loin, qu'est-ce qu'ils ont fait les arbalètes? Ils n'ont pas tiré sur les fantassins. Ils ont tiré sur les cavaleries. Donc, en quelques minutes, la fine fleur de l'aristocratie française a été tuée. Vous imaginez le moral? Les fantassins, vous voyez les flèches passer devant eux, les cavaliers derrière tués, massacre au complet. Donc, ça fait que la bataille était déjà très bien engagée. Résultat du coup, la bataille de Dunkerque, bah, c'est une bataille gagnée par les Anglais sur le sol français, alors que nous étions à peu près de l'ordre d'un pré-étonnique de l'époque, 8 à 10 fois plus nombreux. Bon, comme quoi, il y a des batailles dont parfois l'issue est incertaine. et dont, en fonction de l'avance technologique et du courage, on retrouve bien Clausewitz, le sens de l'histoire peut changer. Alors, vous avez tout ça dans les films. Vous n'avez pas un film que vous aimez bien, un film de guerre, dans lequel il y a un autre exemple? Puisque moi, je cite des films que vous ne connaissez pas, alors peut-être que vous pouvez m'en citer, que moi, je ne connais pas. Ça serait bien. Dans lequel il y aurait un... Souvent, on dit briefing. Hein, on ne dit pas briefing chez Shakespeare, bien sûr. Mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis les films de la Seconde Guerre mondiale, on dit briefing. Le
Seigneur
des Anneaux.
Alors,
je vais
dire...
Oui, il y a des épisodes comme ça, ouais.
Il y a trois batailles, trois films.
Ouais. Et il y a un discours aussi, je me souviens bien.
Ah oui,
hein,
voilà, c'est des beaux discours. Hein.
Voilà. Et un magnifique entrique, non? C'est des discours, quand on est dans le film, il faut être dedans. Mais c'est des discours, ça nous prend entrique, c'est fort. Ouais, on est d'accord. Tout à fait, je suis d'accord. Dans ces genres des anneaux, voilà. C'est pas un film directement guerrier. Hein, mais il y a quand même pas mal de sagas, ouais. Exact. Bon, on s'en fait moins, bah, bravo. C'est pas le coup, je le connais celui-là, mais bon, je suis sûr qu'il y a des tas de films que je ne connais pas. Parce que là, j'ai passé le temps pour voir des films, hein, mais dans lesquels vous avez ce genre de grands moments intenses. Bon. Recours à des ruses, les revers, les tenailles. Alors ça, c'est plus difficile à traduire en com. En com, la concentration, c'est facile. Hein. Les briefings, on les fait en com. Dans 99 francs, Mec BD en montre un exemple de briefing. Il le tourne en dérision. Hein. Mais c'est ça. Donc en com, on a briefing. Est-ce qu'en com, on a les mouvements tactiques de revers et de tenaille? Oui, on peut prendre une ligne à revers, on va prendre un contre-argument. Ça peut se faire. Tenaille, entre deux morceaux, c'est un peu plus dur. Donc vous sentez qu'après, quand ça devient trop militaire, ça marche un peu moins bien quand même. Bon. On termine avec... alors, est-ce que j'ai le temps de vous faire Gemini? Non, peut-être pas. Qui c'est qui a répondu? Je pense pas. Bon, alors, puisque vous ne pensez pas... Non, mais je le prends très bien, je reste sûr. Est-ce que j'ai l'air de... bon, je me marre. C'est bien la preuve, je le prends bien. Non, mais bon, c'est vrai. En plus, vous avez vu votre examen, enfin, c'est relatif. Bon, alors, s'il faut, on s'arrête. Okay. Il faut juste que moi, je trouve dans vos emplois du temps à partir de cette semaine, ça va être un peu juste parce que j'ai des trucs à finir, mais d'ici la fin novembre, il faudra pas vous étonner si de temps en temps que vous avez un trou dans la semaine, je viens de jouer les bouchous parce que j'ai quand même quelques lundis qui ont sauté. Je parle pas du 11 novembre, ça c'est normal, mais il y a d'autres lundis qui ont sauté pour d'autres cours. Et cette année, j'ai quand même un déficit horaire, donc il faut que je rattrape le déficit en question. Et ça, on va le faire, je pense, dès la semaine prochaine en fonction de vos... En principe, c'est toujours plutôt bouchous, alors en fin de journée, quoi. C'est ce qu'on fera. Il faudra pas vous en étonner. Bon, ok, bien, on s'arrête là puisque. Puisqu'on me le conseille, je suis gentiment le conseil.